à votre santé. Eh bien, voici la 145e émission de l'Association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les auditrices, auditeurs de RVM. Nous sommes deux aujourd'hui, avec moi
Christian Max
et moi-même Hélène Mazur de l'association. Et nous allons vous parler aujourd'hui d'un sujet brûlant, la question des urgences dans notre secteur et dans notre pays et des solutions possibles. Auparavant, je crois que tu as trouvé, entendu ou vu une information, Christian, qui, excusez-moi de le dire, nous donne entièrement raison dans notre combat. Alors allons-y.
Oui, alors je vais commencer par une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le taux d'incidence dans l'Oise est passé en une semaine de 375 à 178. Et je ne peux pas en dire plus parce que Covid Tracker est un site en reconstruction. Alors, ce que tu me racontes là, c'est que j'ai vu dans l'Aisne le départ d'un médecin subventionné crée la polémique. Donc ça, c'est issu d'un reportage de France 3 et d'un article du Courrier Picard. Donc son arrivée avait suscité l'enthousiasme, mais exerçant libéral, il bénéficie d'une totale liberté d'installation.
Ça, on le sait.
On le sait. Donc ça se passe à Vély-sur-Aisne, donc c'est pas loin de chez nous. Et voilà que ce monsieur donc est arrivé en 2018, et 3 ans plus tard, eh bien, il a décidé de quitter la région et d'aller s'installer à Nice.
Ah.
Évidemment.
Ah oui, entre l'Aisne et les Alpes-Maritimes. Ah,
laissant tous les patients, le bec dans l'eau.
Ah oui, c'est ça.
Alors, la municipalité et les habitants d'ailleurs, en plus, sont pas contents, mais alors pas contents du tout, puisque la mairie, elle avait notamment pris en charge les premiers loyers du logement et du cabinet du praticien. Ce dernier avait récupéré le mobilier du précédent médecin. Un véhicule avec carburant pendant un an avait été mis à sa disposition. La mairie avait payé 12 000 euros à un cabinet de recrutement international pour le faire venir.
12 000 euros, quelle honte !
Voilà.
Quelle honte !
Monsieur...
Il garantit rien, le cabinet de recrutement ?
Non, il ne garantit rien. Et donc, ce départ, je le répète, n'a strictement rien d'illégal.
Eh bien, la commune de Baie, elle a échappé à une belle arnaque, puisque je me souviens que c'était le projet de recruter via un cabinet de recrutement, qui de toute façon n'a pas trouvé. Elle aurait pu se retrouver, elle aussi, le bec dans l'eau, un an,
deux
ans.
Oui, quelqu'un qui serait venu. Donc, d'ailleurs, c'est ce que dit le premier adjoint au maire au Courrier Picard. Ce qui est certain, c'est qu'à Vély, nous n'accepterons plus de chasseurs de primes.
Eh oui. Il
a compris.
Mais voilà, ça montre bien que, franchement, le système, il ne fonctionne plus.
Il marche sur la tête.
Complètement. Donc, nous allons continuer notre action sur le secteur de B. On ne peut pas encore tout vous dire des résultats de notre enquête, toujours en cours de dépouillement, c'est long.
Mais, et oui, parce qu'il y en a beaucoup.
Voilà. Mais quand vous le saurez, vous verrez, nous prendrons un nouveau départ aussi pour... combler, en tout cas, essayer de solutionner le problème de la désertification. Alors, on voulait vous dire quand même aussi autre chose. Comme nous sommes assez attachés, vous le savez, à l'hôpital public, puisque sans les médecins de ville, l'hôpital public, ça n'irait pas. Et sans l'hôpital public, les médecins de ville, ça n'irait pas. Nous avons besoin des deux en harmonie. Et nous avons été invités, comme beaucoup de personnes, à une réunion organisée par le comité de défense et de développement de l'hôpital de Senlis, en particulier sur sa question des urgences qui ont été fermées, puisque ça reste leur cheval de bataille.
Provisoirement, paraît-il.
Oui. Alors, à ce sujet... Disons, la question, c'est pourquoi en est-on arrivé à la fermeture de ces urgences? Eh bien, la présidente de ce comité, le docteur Prugobita, a fait un bilan de la fusion entre les hôpitaux de Creil et de Senlis, qui sont le fruit d'une réforme, si je me souviens bien. C'était la réforme. Je ne sais plus son nom.
Une réforme, disons, préparée par Mme Bachelot quand elle était ministre de la Santé, il y a donc déjà pas mal d'années.
Oui, parce que c'était sous la présidence de M. Sarkozy, ça.
Oui. Il s'agissait, paraît-il, d'assurer la cohésion entre l'offre privée et l'offre publique dans les territoires. Le résultat qu'on voit, ce n'est pas tout à fait ce qui était annoncé au départ.
Alors, je vous dis, ce que nous dit le docteur Pruvost-Bitard, c'est quand on compare, donc c'était en 2010 que cette fusion s'est opérée, et qu'on compare en 2022 ce qui s'est passé, premièrement, une chute des lits, du nombre de lits à l'hôpital de Senlis et à celui de Creil, et donc de l'hôpital de Senlis, ils sont passés de 251 en 2010 à 152. Y aurait-il moins de malades ?
Ah. Il y a en tout cas plus d'habitants.
Oui. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ils ont ce qu'ils appellent le tournant ambulatoire. Ne gardons pas les malades à l'hôpital, qu'ils se débrouillent chez eux. Et voilà, on n'a pas besoin de lits. Sauf que ça va de pair avec autre chose. C'est la fermeture de services. Puisque, soi-disant, ils devaient mutualiser entre Senlis et Creil, pensez-vous, quelle mutualisation ? Ils ont perdu les uns et les autres. L'un et l'autre, pardon. Donc, qu'a perdu l'hôpital de Senlis ? Eh bien, le docteur Pruvost-Bitard nous a dit, en fait, on a perdu nos spécialités. Et on devient maintenant un hôpital de médecine générale, en quelque sorte, avec la gériatrie. Et évidemment, la maternité qui est venue de Creil. Alors, quelles spécialités ont été perdues ? Eh bien, écoutez, c'est quand même pas rien. Il y a le service d'oncologie, quand même, hein, qui soigne les cancers, de neurologie. Évidemment, là, les urgences, en l'occurrence avec la réanimation, les soins continus, tout ça, ça va ensemble. La chirurgie viscérale et orthopédique, la gastro-entérologie, la pneumologie, la pédiatrie. Tu te rends compte ? En 10 ans ?
J'espère qu'ils soignent encore les rhumes.
Ben oui, justement, c'est ça. C'est ce qui reste, la médecine générale. Hein, c'est ce qu'elle me dit. Et donc, ce qui a monté en puissance, c'est la gériatrie. Évidemment, l'obstétrique gynécologie, vu qu'ils ont accueilli maintenant les futures mamans de Creil, et les soins de suite et de réadaptation. Entre nous, à part l'obstétrique et gynécologique, ça ressemble au petit hôpital local de Crépy-en-Valois, hein, médecine générale et soins de suite et réadaptation. Et de toute façon, c'est ce qui se passe, hein, quand il y a eu des fusions, mais l'hôpital de Méru, je crois que c'est ça maintenant. Et surtout au niveau des actes, des passages dans les urgences, en 2010, eh ben, il y en avait 35 000 à l'hôpital de Creil, 21 000 à Senlis. Aujourd'hui, vous savez combien il y en a ? 34 000 à Creil, donc ils en ont perdu, alors qu'il y en a zéro à Senlis. Et évidemment, il y a moins de capacité d'accueil, etc. Mais donc on se dit, mais où vont les gens ? Or, il y a beaucoup de témoignages qui montrent que des gens renoncent aux soins, aux heures d'attente dans les urgences. Et comme par ailleurs, il n'y a pas forcément le médecin de ville qui va pouvoir les recevoir dans l'urgence, eh ben, on se demande ce qui se passe. Hein. Donc là, c'est un cri d'alarme. Hein. Alors, ce qui est dit en même temps, c'est que c'était soi-disant cet objectif de fusion pour combler les déficits des deux hôpitaux. Alors, écoutez bien, l'hôpital de Creil avait 2 700 000 euros de déficit, celui de Senlis, 9 500 000 suite à des travaux. Eh bien, vous savez combien que c'est aujourd'hui le déficit des deux hôpitaux cumulés ? Vous n'avez jamais deviné. 100 millions. Non, mais vous vous rendez compte ? 100 millions. Donc, c'est un fiasco sur toute la ligne. D'ailleurs, est en cause, hein, l'endettement des hôpitaux de la fameuse loi, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui fait des facturations au forfait. sans tenir compte de l'ensemble des soins qui sont donnés.
En fait, moi, j'ai l'impression que j'en retire, c'est que tout est fait pour asphyxier l'hôpital public.
Voilà, mais c'est ce que disent d'ailleurs les personnels. Alors, je termine. Bon, on parlera des solutions après, mais nous avons vu que c'est évidemment pas que l'hôpital de Senlis qui est dans cette situation. Tu as entendu parler de la fermeture des urgences de l'hôpital de Bordeaux, qui est un prestigieux centre hospitalier.
Oui, même ça, on est obligé d'en parler dans les médias nationaux. C'est pour dire que la situation devient grave.
Et c'est pas étonnant. C'est pas en soi cet hôpital qui est en cause, mais la fermeture des services dans les hôpitaux de proximité. Donc, évidemment, que ceux qui restent ouverts sont asphyxiés. Donc, c'est bien ce que tu dis. C'est une destruction programmée de l'hôpital. Alors, j'ai lu un appel d'un ensemble d'organisations professionnelles, syndicales et d'usagers. Et alors, le titre de leur appel, c'est « Hôpital désespérément maltraité, il va y avoir des morts. Faudra compter les morts. » Vous vous rendez compte? Ben, on s'en doute. Toutes les personnes qui ne sont pas accueillies alors qu'ils sont dans les besoins d'urgence. Alors, tu sais ce qu'ils disent. Je ne vais peut-être pas vous citer, mais toi, tu as peut-être des situations à dire. Des situations, il n'y a pas d'autre mot, incongrues, incohérentes, inadmissibles aussi, insupportables. Hein, tout le monde le sait, ceux qui attendent dans les couloirs, dans les urgences. Moi, j'ai même lu un témoignage d'un infirmier qui disait, vous vous rendez compte, j'ai dû faire, dans un couloir, j'ai dû faire une perfusion et laisser la personne et placer une sonde. Non, mais vous vous rendez compte où on est là ? Et les laisser dans un couloir. Alors ça, le fait qu'ils soient dans un couloir, c'est le résultat de quoi? Qu'ils soient dans des couloirs, les malades?
La fermeture de lits.
Voilà. Rappelons qu'il y a eu des milliers de fermetures de lits et que pendant la pandémie, où on manquait de lits...
On a continué à fermer.
Voilà. Donc là, c'est bien une volonté, une orientation. Hein, alors, qui profite à qui? Ben, vous le savez bien, hein. Hein, pendant ce temps-là, eh bien, les cliniques grossissent. Hein, ça, on le sait. Alors, que nous disent donc ces professionnels et ces usagers? D'abord, ils n'en peuvent plus. On en a déjà parlé. Ils sont en colère et fatigués. Ils disent qu'ils ne peuvent plus remplir leur rôle de prise en charge correcte de la population. Et que les contraintes professionnelles retentissent sur leur santé et leur vie privée. Bah, écoutez, moi je pense qu'effectivement, il y a une déontologie hein, quand on doit être là pour soigner et qu'on voit qu'on ne peut pas soigner correctement, bah, je pense qu'on doit être très mal dans sa peau. Hein.
Et tout ça, ce n'est pas nouveau, hein, parce que le document auquel tu fais allusion précise bien que ça fait 3 ans que les organisations qui sont citées en haut alertent le ministère sur la situation des urgences. Et qu'est-ce qui a été fait? Rien.
Rien. Rien. Rien. Rien. Et alors, le soi-disant Ségur de la santé, vous vous souvenez, alors là, il s'élève contre ce Ségur qui n'a rien fait, qui a déjà, donné quelques primes à certains et pas à d'autres, créant des discriminations.
Oui, moi, j'appelle ça une politique de dame patronesse.
Oui, c'est ça. Un petit peu de...
Bon. On distribue quelques aumônes comme ça pour faire taire le menu peuple et puis après, on repasse aux sauces sérieuses, quoi. C'est-à-dire la casse de l'hôpital public.
Alors, quand on voit finalement cette orientation, que nous sommes à quelques semaines du scandale d'Orpea qui a été mis à jour, donc structure privée qui veut faire de l'argent au lieu de s'occuper de la santé...
Et qui vante sur les réseaux sociaux ses résultats financiers.
Voilà. Bon, ben voilà.
C'est-à-dire le rendement des actions.
Donc, alors qu'il y a ça, on devrait au contraire changer de braquet. C'est ce que demandent ces organisations. Donc, qu'est-ce qu'elles demandent
Ben déjà, recruter des personnels. Recruter des personnels, déjà, ça serait quand même pas mal.
Et alors, à tout point de vue, hein, les personnels, oui. C'est là, pas là, seulement les soignants.
Là, je peux préciser hein, que...
Alors, vas-y.
Depuis la suppression du numerus clausus, donc en 2020, il y avait 9361 étudiants en médecine et en 2021, 10675. Bon, plus 14%, c'est déjà pas mal. Mais malheureusement, bah, ce qu'on manque, c'est et de locaux et d'enseignants. Parce que, évidemment, depuis le temps que numerus clausus a existé, les enseignants, bah, ils ont disparu. Hein.
Eh ben oui. Bah, oui, oui.
Donc il va falloir reconstruire tout un système d'enseignement.
Alors,
en médecine.
Quand on voit que, disons, dans ceux qui veulent défendre le système, ils disent qu'il faudrait recréer 100 000 emplois pour l'hôpital public, toute discipline, toute profession de l'hôpital dans les années à venir.
J'ai entendu aussi
très loin.
Martin Hirsch, là, le directeur oui. de la PHP, qui disait qu'il lui manquait 1400 infirmières.
Bon, ben voilà un chiffre. Alors, juste la,
et ça, la, c'était il y a deux jours. Hein.
Voilà. Donc... Ça, on est sur recrutement de professionnels pour qu'ils aient qu'il y ait un ratio de personnel adapté à la charge de travail. Hein. Et des choses élémentaires, ils demandent. Respect des équipes et des plannings. Parce qu'à tout moment, on leur demande de remplacer par ici ou par là.
On peut les balader à droite et à gauche comme si c'était des pions.
Voilà. On leur enlève, on les rappelle quand ils étaient en congé, etc. Ils demandent aussi, ça on en avait parlé, une revalorisation générale des salaires pour rattraper 10 ans de blocage des salaires. Vous vous rendez compte, 10 ans, bah dis donc, le coût de la vie. Hein.
Oui, c'est-à-dire que nos fonctions publiques hospitalières, notre fonction publique hospitalière est parmi les plus mal payées d'Europe.
Oui, bah ça tout le monde l'a vu, entendu quand...
Et le disait un jour le docteur Dahan, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre.
Ben,
si on veut recruter, ben, les gens, il faut les payer décemment.
Voilà, il faut une reconnaissance, un respect quand même des qualifications. Alors, il ne manque pas seulement des personnels soignants. Il demande un renforcement des moyens significatifs pour les établissements pour recruter dans les personnels des brancardiers, des coursiers, des ouvriers, des logisticiens, des secrétaires, ce qui permettrait aux soignants de s'occuper du soin. Ça veut dire qu'ils sont obligés de faire des tâches comme ça. Quand il n'y a plus de brancardier, c'est eux. Quand il faut faire des papiers, c'est eux, etc. C'est complètement aberrant. Hein, aberrant. Et c'est ce que nous avait dit le docteur Loïc Penn, urgentiste, souvenez-vous, qu'il fallait créer tout de suite, recruter tout de suite des emplois et former des gens pour justement décharger les soignants de ces tâches qui ne sont pas les leurs. Et ça ne demandait pas énormément de formation. Évidemment, ils demandent quoi encore ?
Ben, d'arrêter de fermer les établissements.
Évidemment.
Tout simplement.
De rétablir les lits là où il y en a besoin, selon les besoins. Hein. Et en même temps, donc des mesures qui permettent garantir la proximité, la prise en charge en termes de qualité, de sécurité des soins. Pour toutes et tous. Vous rendez compte, on en est à parler de la sécurité des soins. Donc, chers amis auditeurs et auditrices, une fois encore, nous avons reparlé de l'hôpital, mais pour dire qu'il y a des solutions qui sont demandées depuis longtemps. Et je voudrais rappeler ce que nous a dit notre amie Martine, qui a un hôpital qui fonctionne bien. C'est l'hôpital de Valenciennes qui a décidé de changer la gouvernance. Et c'est-à-dire qu'ils se fondent sur les besoins qui sont établis par les équipes à la base.
Par les équipes et non pas par des comptables
qui
n'y connaissent rien.
Voilà, par les équipes soignantes, par les équipes d'entretien, etc. Et c'est comme ça que l'hôpital fonctionne et il n'est pas en déficit. Voilà, donc il y a des solutions. Alors pensez-y bien, chers auditrices, auditeurs, quand vous allez faire votre devoir de citoyen et de citoyenne. Nous vous disons à très bientôt. Vous pourrez nous écouter comme d'habitude le samedi à 10h30, le mardi 13h, jeudi 16h. Et si vous nous avez raté une émission, en podcast. Au revoir.
Au revoir.